Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR. Et Shai, j'aurais jamais pensé qu'un matin on aurait débriefé une performance de Malachi Flynn. Malachi Flynn qui a mis 50 points. C'est la performance surprise de la nuit. C'est peut-être pas la plus marquante, mais j'avais envie de commencer par celle-là parce qu'il a quand même pulvérisé son record personnel. Sa meilleure performance en NBA, c'était 27 points. Là, il en a mis 50. Alors, c'est pas un mauvais joueur, hein, Malachi Flynn. Moi, j'y croyais quand il sortait de la fac. J'attends, c'est un peu comme Théo qui attend l'explosion d'Anthony Bennett. Tu vois, ça fait un moment que j'attends que Malachi Flynn y passe un cap. Et c'est dans un match un peu sans importance, on va pas se mentir, que Malachi Flynn a donc mis 50 points contre les Hawks. L'ironie, c'est que Détroit a perdu. Victoire d'Atlanta, 121 à 113.
C'est le joueur dans l'histoire avec la plus petite moyenne de points qui arrive à faire un match à 50 points. Parce qu'un peu, il y a des mecs, des intrus un peu comme ça. On se rappelle de Tony Delk, Corey Brewer. Enfin, c'était pas des mauvais joueurs, mais c'est jamais des mecs que tu imaginais mettre 50 points. Terrence Ross même l'avait fait à une époque où le scoring n'avait pas encore totalement explosé. Mais ouais, là, il sort du banc. Il avait, comme tu as dit, jamais marqué plus de 27 points. Et bah, soirée mémorable pour lui, à défaut d'une soirée mémorable pour les Pistons, 10e défaite en 11 matchs, mais grosse performance individuelle. Contre les Hawks, quand même, parce que c'est l'info, c'est que les Hawks sont revenus à égalité quand même avec Chicago pour la 9e place. Donc, ils sont bien accrochés. Ça se passe plutôt correctement sans triangle, en tout cas au niveau des victoires engrangées. C'est toujours pas fou en défense, parce que Théo nous le faisait justement remarquer avant qu'on commence en discutant, mais il y a pas mal de cartons contre les Hawks, des cartons offensifs, et il n'y a aucune raison que les Hawks soient aussi mauvais ou aussi perméables défensivement, vu qu'ils ont quand même un effectif avec des joueurs individuellement très corrects en défense.
Mais c'est ça, si tu regardes DeAndre Hunter, Jalen Johnson, Clint Capella et DeJounte Murray, là ça fait 4 sur 5 dans le 5 majeur qui sont quand même censés être des bons défenseurs. Jalen Johnson d'ailleurs qui a signé un beau triple-double, hein, 28 points, 14 rebonds, 11 passes, on continue d'encenser ce joueur. C'est vraiment, je crois que vraiment un de nos top 5 des coups de cœur de la saison, ouais. Jalen Johnson. Juste sur Flynn, qui fait quand même un match de fou, hein. C'est en 34 minutes, 18 sur 25 au tir, il prend 6 rebonds, il arrive à balancer 5 passes décisives, hein, quand même, et à faire 3 interceptions.
Ouais, c'est ça, il intercepte aussi, enfin, il y a grosse performance.
Il y a un plus 14 le moment où les Pistons sont sur le terrain. Juste en fin de saison, ces dernières années, on voit toujours des mecs qui sortent de l'ombre, tu vois, qui mettent 35-40 points. Peut-être pas 50, mais 35-40. Tu vois, on en a vu plusieurs des perfs comme ça sur les fins de saison parce que faut pas oublier que ces mecs-là, c'est des joueurs NBA au final et c'est souvent qu'une question d'opportunité. Et là, c'est roue libre totale de leur franchise. Je serais pas surpris que demain, il y ait Freeman qui mette 50 points à Toronto, tu vois. Mais tout ça pour dire.
Freeman Liberty,
oui. Ça, il y a des mecs qui mettent 35-40. Là, on est dans une. Alors, c'est pas un gros match offensif, hein, mais tu vois, on est dans un basket de plus en plus rapide, de plus en plus de tirs à 3 points, etc. Bon, bah voilà, maintenant on a des perfs à 50 points de Journeyman. Il n'y en aura pas non plus 50 000, hein, je pense, des perfs à 50 points de ce genre de mec. Mais bon, Flynn, l'ironie, c'est que ça ne veut même pas dire qu'il aura un contrat l'an prochain. Hein. C'est ce que je disais sur les perfs de fin de saison, là, par exemple, pour les Français, pour les Rupert et tout. Là, Flynn, il met 50 points, mais ce n'est pas pour autant qu'il aura un rôle plus important l'an de la saison
prochaine. Je pense quand même que du coup, les agents, c'est plus facile à vendre un mec. Même si tu es au bout d'un banc, un mec qui vient qui a mis 50 points, bon, il suffit que ce soit un bon coéquipier, qu'il ait une bonne réputation et ça va quoi.
Mais qu'il ait un contrat, mais qu'il ait un rôle plus important, je suis pas sûr. Là,
t'as raison.
Flynn, il a pas un rôle de back. Donc du coup, si t'es troisième meneur, oui, tu peux choper un contrat, mais c'est pas simple, hein, même si t'as mis 50 points.
Non, je suis pas sûr que ça change fondamentalement que quelqu'un se soit dit, oh incroyable, ce sera notre backup l'année prochaine et on va à la guerre avec. Non, je suis d'accord avec toi. Le contexte est important. J'aurais préféré que ce soit Evan Fournier qui fasse les 50 points en sortie de banc. Malheureusement, c'était pas. Il a joué 15 minutes et 0 sur 5. Et malheureusement, c'est Malachi Flynn et pas Evan Fournier.
Allez, on enchaîne avec la victoire de Boston, la victoire écrasante de Boston contre Oklahoma City. 135 à 100. Si jamais certains se demandent ce que Chet Holmgren aurait donné dans un effectif comme celui des Spurs, voilà, vous avez un début de réponse sur le Thunder sans Shea et sans Jalen Williams, le Thunder qui est en train de laisser filer la première place à l'Ouest, et Boston qui allait chercher donc sa 60e victoire de la saison, 60 victoires en 76 matchs. Boston qui est assuré de finir premier en NBA cette saison, assuré d'avoir l'avantage du terrain tout au long des playoffs. 27 points, 12 rebonds de Porzingis, 24 points de Jason Tatum, 23 points de Jalen Brown.
Peut-être falloir commencer à reposer des gens là, non ? Ce serait con, une blessure.
Je pense que là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont atteint les 60 wins.
Ouais, parce qu'à moins que tu sois en quête d'un record, s'ils veulent absolument battre le meilleur record de l'histoire des Celtics, tout ça, et qu'ils s'en cachent pas. Mais bon, là, j'espère qu'ils vont quand même. Moi,
Mais
j'ai pas envie qu'il y ait un blessé important juste avant les playoffs, quoi.
je pense qu'ils vont reposer un peu, mais reposer, c'est pas forcément toujours
Non,
rater des
oui.
matchs, hein. Tu peux
Bien
faire,
sûr.
là, les mecs, ils jouent 25 minutes, tu peux réduire le temps de jeu. Mais oui, je pense qu'il y a des soirs où on va avoir des 5 majeurs avec Hauser, Brissett, Horford et Peyton Pritchard dans le 5.
Et ils vont quand même gagner. C'est ça le
Et ils
pire.
vont sans doute quand même gagner parce qu'ils ont un très bon banc. C'est ça le
Ouais.
coup fou. Bah, d'ailleurs, Horford hier, il met 16 points, Hauser 10 et Peyton Pritchard 11 avec 8 passes décisives. Thunder n'a pas existé sur ce match. L'équipe qui prend la première place à l'Ouest, justement, c'est Minnesota qui a infligé à Toronto la plus lourde défaite de l'histoire des Raptors. Freeman Liberty a mis 16 points. Attention, 16 points de Joel.
50 points
Donc,
incoming.
victoire 133 à 85. Pas eu besoin de forcer le talent. 23 points de Naz Reid. Lui, il score dès qu'il joue, il
Ouais,
score. C'est
c'est clair.
automatique. 28 points pour Anthony Edwards, 11 points, 14 rebonds, 15 rebonds pardon, pour Rudy Gobert. Les Timberwolves qui, comme je le disais, prennent la première place de la conférence
Ce
Ouest.
qui est bien, c'est que Naz Reid, qu'il soit titulaire ou remplaçant, l'impact, il est pareil. Parce que tu peux te demander si c'est pas le genre de joueur qui est surtout bon en sortie de banc et que dans le 5 ou pour finir les matchs, il y a des joueurs avec ce profil-là. Hein. Titulaire ou pas titulaire, il est là, il prend des rebonds, il marque des points. Il est vraiment impressionnant. Toujours. Super affaire qu'ils ont fait en le signant lors de la dernière intersaison, la prolongation. Ouais. Très très bon choix de la part de Tim Conley.
Il y a un truc qui me marque avec lui, ça n'a rien à voir avec ses performances, mais que c'est un big man. Alors, il faudrait que je voie sa tête quand même, parce que big man de nos jours, maintenant, tu peux faire sa taille, pardon, je connais
Je
sa
me
tête.
disais.
Sa taille. Non, parce que big man de nos jours, tu peux être big man, quelle que soit ta taille, mais je trouve qu'il a une mécanique de tir très rapide et très fluide pour
Un
un
peu
joueur de
délié,
5 ans.
quoi, ouais, c'est ça. T'as raison.
Et par rapport à d'autres mecs, et voilà, donc c'est un très bon shooter, mais je trouve que les grands, souvent, ils ont tendance à tirer très lentement. Lui, j'aime bien sa mécanique de tir pour un mec de sa
C'est
taille.
un
Voilà.
mec qui devait
Après,
jouer arrière ou ailier au
voilà,
lycée et qui a
ouais.
grandi.
Et puis ça se trouve, en fait, je vous dis ça, mais il doit faire 2,6 m, tu vois. Il n'est pas non plus si, si grand, mais j'ai un doute s'il fait 2,6 ou peut-être même 2,4. Je sais pas. 6,9, ça fait quoi? Il doit être 6,9.
Oh, je suis nul en taille. Oui, c'est doigts, ça doit être 2,8, 2,08, non?
Ouais, 2,08. Je...
2,06, il est annoncé à 2,06.
2,06, ok, bon. Après, il passe. Bon, ça reste un big man dans cette NBA actuelle. Mais bref, passons. Une autre équipe qui est en forme en ce moment, c'est les Los Angeles Lakers. Vous savez comment je l'ai dit, Lakers? C'est
Lakers.
les Lakers. Voilà, 8 victoires en 9 matchs. On va pouvoir dire du bien des Lakers. Ils sont en train de monter en puissance au meilleur moment au final. 35 points, 18 rebonds. Alors, la victoire, c'est contre Washington, pardon, 125-120. 35 points, 18 rebonds d'Anthony Davis. 25 points, 9 passes de LeBron James. 18 points de D'Angelo Russell. Et en fait, de toute façon, c'est simple. Leurs 5 majeurs, ils tournent très, très bien. Ça, on l'avait déjà dit pour le coup. Mais c'est simple, ils ont mis leurs 5 meilleurs joueurs dans le 5. Tout tourne autour de ça. Pourtant, il y a des joueurs pas trop mauvais sur le banc, si tu penses à Dinwiddie, Vincent, etc. Mais le gros du travail est fait par le 5 majeur. Et ça marche plutôt bien. Et voilà, les Lakers qui ont le même nombre de victoires que les Kings, par exemple. Donc, il y a une petite course. Mais ils ont quand même 2 défaites de plus. Donc, je sais pas s'ils peuvent.
Ils sont qu'à une victoire de Phoenix aussi, qui est sixième, c'est ça?
Ils sont qu'à une victoire de Dallas, qui est cinquième dans ce cas-là. Mais en fait, en match d'écart, il y a 2 matchs d'écart.
Les Lakers aiment vraiment bien faire des finishes, des grosses deuxièmes parties de saison quand même. Parce que toute la première partie de saison, Darvin Ham, il a tâtonné, il cherchait les meilleures formules. Austin Reaves dans le 5, pas dans le 5. D'Angelo Russell, pareil. Et bon, là, ils ont l'air d'avoir vraiment trouvé la dynamique. Je suis bluffé par la. Enfin, bluffé. On sait qu'il est monstrueux, mais la saison d'Anthony Davis, quand même, il faudra qu'on se penche dessus. J'ai tellement été habitué à être sceptique sur sa forme, enfin sur sa propension à se blesser, que là, sa saison, elle est. Dans tous les matchs, il est ultra dominant des deux côtés du terrain. Il est impressionnant. C'est le joueur qu'il est censé être. Tout n'est pas de sa faute. Hein. Il a eu des problèmes physiques, c'est un peu indépendant de sa volonté. Mais là, quand il est comme ça, quel joueur quand même.
Et je vais dire du bien
Tu
des
l'as pris
Lakers.
pour toi un peu le commentaire sur YouTube sur
Non,
les Lakers.
honnêtement, pas vraiment. Parce que au contraire, je ne comprends pas trop. Parce que je sais qu'on a souvent dit du bien des Lakers aussi. Mais là, dans la configuration actuelle du play-in, avec les équipes qui sont actuellement dans le play-in, je pense que les Lakers iront en play-off. Tu vois, parce que. Ouais, enfin bon. Après, c'est impossible à pronostiquer. En vérité, c'est très, très dur. C'est très, très serré entre toutes les équipes. Mais bon, en tout cas, il y a une vraie.
Ils essayent de l'éviter, le play-in, hein, là, en fait, finalement. Le run, il est. C'est pas,
ils ont joué plus de matchs. Hein. Il leur reste que 5 matchs, les Lakers. Hein. Remonter deux victoires en 5 matchs, c'est.
Ils veulent peut-être juste éviter de jouer deux matchs de play-in. C'est ça, le.
Ça c'est éventuellement c'est possible si les Kings se trouvent un peu ou les Pelicans se trouvent un peu.
Quand
les
ton Pelicans, meilleur joueur, quand ton franchise player, il a 40 ans et que l'autre, il a des petits soucis de blessure, c'est bien d'éviter le moindre match coup près où tu dois aller faire jouer 45 minutes.
Après, ça leur a bien réussi. Hein. Ça fait 2 ou 3 ans de suite qu'ils passent par le play-in. 2 ans de suite. Non, depuis le titre. Donc au final, ils passent à chaque fois par le play-in. Ils se sont qualifiés 3 ans de suite via le play-in. Mais ça mène sur les Pelicans. Les Pelicans qui sont passés de la 4e place il y a quelques jours à la 7e, l'Ouest encore une fois. Et les Pelicans qui ont perdu Zion sur blessure, sachant qu'Ingram est blessé. C'est un peu toujours
le
problème. Donc New Orleans a perdu à domicile contre Orlando. Belle victoire d'Orlando avec 32 points et 6 rebonds pour Paolo Banchero, 24 points de Franz Wagner. Orlando qui, à l'inverse, vient de prendre la 4e place à l'Est et peut même envisager la 3e. Vu que Cleveland se casse la figure. Enfin bref, il y a plein. En fait, faut plus du tout qu'on parle des classements parce que, enfin, faut qu'on en parle, mais faut qu'on arrête de dire telle équipe va finir là. Ça change vraiment très très vite. Et du coup, victoire du Magic sur les Pelicans.
Ouais, t'as raison, ça change tellement tout le temps que il y a quelques, je me souviens plus, il y a quelques jours ou semaines, j'avais dit, de toute façon, Indiana sera forcément en top 6 ou je sais plus quoi. Enfin, et là, ils en sont sortis parce qu'ils ont perdu. Orlando, t'as raison, peut encore finir 3e. Donc c'est bien quelque part. Les places sont pas figées et toutes les équipes vont jouer jusqu'au bout quasiment. Donc ça, c'est intéressant. Les Pelicans, c'est un peu décevant. Ils sont sortis du match. La blessure de Zion au doigt leur a posé problème. Orlando, c'est une équipe super chiante à jouer si t'es pas bien. Voilà, ça joue à fond. Banchero et Wagner ont été bons, mais globalement, ils ont tous. Ils les ont un peu frustrés, ils les ont fait sortir du match. La fin de match, t'as Herb Jones, Trey Murphy et Dyson Daniels qui se font sortir quand même. Ils se sont expulsés. Ils ont été extrêmement frustrés par l'opposition qu'a représenté Orlando et le Magic. Je suis très content que mon Magic soit là. 32 points à Banchero.
Et c'est fort pour dominer physiquement les Pelicans. Mmh. Parce que justement, c'est une équipe qui a des atouts athlétiques et là, pour le coup, qui a de la taille. Mais le Magic, c'est un de leurs vrais points forts. C'est leur défense, la capacité à étouffer. Ils sont à la limite sur tous les contacts. Tu as des mecs comme Suggs, même Gary Harris, qui a été. Bon, là, il ne met pas un point, mais c'est des mecs qui ont Isaac, Fools. Il y a plein de joueurs comme ça qui ont une réputation de joueur athlétique, Cole Anthony. Il y a une vraie équipe profonde et solide du côté d'Orlando.
Ouais.
Indiana, t'en parlais, on peut aborder très brièvement. Indiana a perdu contre Brooklyn et c'est quand même une défaite 115-111, donc contre une équipe de Brooklyn qui honnêtement joue plus rien. C'est une défaite problématique pour les Pacers parce que du coup, sans jouer, Miami reprend la 6e place de la conférence Est.
Ouais, tu peux pas perdre contre les Nets. Bon, c'est des équipes professionnelles en face. Hein. Je dis pas que c'est une faute incroyable, mais c'est à ce moment-là de la saison, et c'est quand même important. Les Pacers, je pense qu'ils ont besoin aussi pour l'expérience du groupe, pour Haliburton, tout jouer une série de playoffs. Et tu t'exposes à ça. Hein. Tu perds contre les Nets. Ils étaient à combien, les Nets, de défaites ils étaient pas. Ils sont vraiment. Voilà, la dynamique n'était pas bonne. Ils ont dû battre Toronto en cours de route, mais sinon, c'est pas fou. Et tu parlais de Toronto tout à l'heure, Toronto qui était à 15 défaites de suite, on l'a pas dit, ça m'a fait penser à ce que tu disais l'autre jour. S'il y avait assez de matchs, il t'appelle le record des Pistons. mais Brooklyn, j'ai pas les stats, mais ils sont, le cas sur le calendrier, ils sont aussi en roue libre. Et Indiana, c'est à domicile, hein, on est d'accord?
Non, c'est à Brooklyn. Il y a 22 points de Noah Clooney.
Oui, non, c'est parce qu'ils se sont joués quasiment back-to-back, c'est pour ça. Ouais, c'était en. Mais oui, Clooney, le rookie, qui a mis 22 points, 10 passes ou 10 rebonds.
22 points, 10 rebonds.
J'ai vu un 22-10 tout à l'heure. Ouais, ouais.
22 points, 10 rebonds.
Mais oui, c'était pas une bonne soirée pour Indiana. J'ai un peu peur parce que c'est typiquement le genre d'équipe qui peut sur le play-in, ils peuvent sortir quoi. Ils peuvent même s'ils sont classés 7, ils peuvent tout à fait se faire surprendre par une équipe.
Parce que Chicago, Atlanta, c'est pas beaucoup plus faible qu'Indiana, honnêtement. Ouais. Et Philly, s'il y a Embiid, Mais bon, j'avais dit, on ne sera pas trop pronostiquer les classements. Si je peux faire un dernier pronostic pour les classements, c'est que je pense que la sixième place à l'Est, elle est importante, pas seulement parce qu'elle qualifie directement, mais parce que tu joues théoriquement contre Cleveland. Et si je pense qu'il y a bien un upset qui est réalisable, et ça me fait mal au cœur de le dire, parce que je ne veux pas tomber dans le cliché de « Ah, bah ils se sont fait upset l'an dernier, ils vont se faire upset à nouveau cette année. » Je trouve qu'ils ont une bien meilleure équipe cette année, elle est bien plus profonde. Et je l'ai dit, les Cavaliers, ils doivent partir sur n'importe quelle série du premier tour en mode on est plus fort. Mais là, dans la réalité des faits, le troisième, c'est donc Cleveland. Cleveland est sur une très mauvaise période. Cleveland a perdu contre Phoenix 122-101. Alors, ils sont pris un. Là, Booker, ça y est, il a activé le mode
Booker,
playoff.
Ouais. Ouais.
Booker, il a activé le mode playoff. 40 points, 8 passes. Durant, ajoute 32 points. Les Suns viennent de passer 6e. Ils peuvent encore être 5e, tout comme ils peuvent finir 9e, enfin 8e plutôt, on va dire, ils peuvent pas descendre beaucoup plus bas que 8e, je pense. Mais c'est, voilà, c'est la conférence Ouest. Et donc, je disais, les Cavs, voilà, ils sont presque au complet, là, je crois. Il manque personne.
Michel était reposé au dernier match, mais là, il a joué.
Non, mais je crois que ça y est. Il manque Okoro, il manque Okoro, mais grosso modo, c'est pas non plus la plus grosse absence. Donc, leur équipe, elle est là, mais ils ont du mal. Là, d'ailleurs, hier, ils font jouer leur titulaire quasiment tout le match.
Ils se sont fait éclater. Il y avait plus de 5
à la mi-temps. Dans le quatrième quart-temps, il y a encore beaucoup d'écart, mais il continue, Bickerstaff, il met son 5 majeur absolument. Je pense qu'il y a une volonté en fait, de se trouver de la confiance, de se trouver du rythme et de se relancer. Ils ne sont pas sur une bonne période, alors que c'est le moment où justement tu dois monter en puissance. Du coup, les Cavs, ils risquent d'arriver avec peu de confiance en fait, en play-off s'il n'y a pas, sur les quelques derniers matchs de la saison, quelque chose qui se passe, tu vois. Et ça peut poser problème. Tu sais que l'an dernier, tu es sorti au premier tour. Tu sais que tu es encore une fois tête de série. Tu sais que tu es un peu attendu. Y a toute cette pression et tu sors d'une mauvaise période. Tu as toujours un peu cette histoire autour de Mitchell, même si c'est par le moins des rumeurs. Tu vois,
mais sur on le sait contrat, que
ça, ça flotte un peu dans l'air. Et tu peux jouer un premier tour potentiellement contre Miami ou Philadelphie.
C'est pour ça que je dis
cette sixième place, elle est importante parce que t'as la possibilité d'aller jouer un adversaire qui serait a priori pas forcément dans les meilleures dispositions.
Ouais, si toutefois ils finissent troisième, parce que t'as raison.
Si toutefois ils finissent troisième,
ils vont s'accrocher parce que j'arrête pas de dire, je vais pas les lâcher maintenant en disant qu'ils sont, mais ils s'accrochent tout le temps, ils arrivent à trouver des ressources dès qu'on a l'impression qu'ils vont lâcher prise, mais ça peut très bien être Orlando ou New York encore. Ça va être un des suspens de fin de saison aussi.
Après, pareil, Orlando, tu vois, tu peux te dire que c'est une équipe jeune, inexpérimentée.
Bien sûr.
Ça, je dis cette sixième place, elle est importante, elle est intéressante. En tout cas, même si les Bucks, on va parler des Bucks, vous inquiétez pas, on va pas oublier les Bucks. Les Bucks sont peut-être pas l'équipe la plus flippante du monde, mais je pense quand même que c'est plus intéressant de finir qu'il y a un certain gap. Entre là jouer le deuxième ou jouer le troisième. Là où, par exemple, à l'Ouest, si tu joues le deuxième, forcément, c'est Denver, mais tu sais, de toute façon, tu ne sais pas encore si Denver va finir deuxième, troisième. Donc, bon, tu ne peux pas trop faire ce calcul. J'ai dit, il faut arrêter avec les classements. Là. Je ne sais pas pourquoi je continue.
On a fait 10 minutes sur les classements.
Mais parlons de Milwaukee, parce que Milwaukee a perdu à domicile contre Memphis. 111-101. Alors, il y a encore une fois pas Lillard. Donc, le bilan sans Lillard, il passe à 6 défaites, 1 victoire sans Lillard, je crois.
Tu n'avais pas dit 6-1 déjà ? Ah non, 5-1, tu avais dit, je ne sais plus.
Non, oui, tu as raison, pardon. C'est 7 défaites, 1 victoire en 8 matchs sans Lillard. Donc, là, vraiment, l'absence de Lillard pose problème.
Non, mais même sans Lillard, quoi.
Ouais, même sans Lillard.
Ils viennent de perdre contre Washington et Memphis. Ils sont totalement en roue libre. Tu peux pas. Et c'est quoi ça ? Et 4 défaites en 5 matchs en plus, là. C'est même pas que ils ont perdu contre deux nanars, mais en plus ils sont pas sur une bonne
Ça c'est pas mal ça quoi.
Ah ouais non mais
je crois que Théo m'avait dit ça hier, je crois que c'est l'équipe qui a le meilleur bilan contre les grosses équipes de la ligue.
Ouais, c'est possible, ils arrivent peut-être à se motiver plus contre les grosses équipes, mais tu vois le bilan à l'extérieur qui est catastrophique, ils sont à 18-20 à l'extérieur.
Quand tu prends des mauvaises, mais là c'est en plus à domicile. Si je perds chez eux là.
Mais tu vas voir pourquoi je dis ça, pourquoi je parle du truc à l'extérieur, parce que donc du coup ils interrogent Doc Rivers après le match sur son bilan, ils regardent, ils disent ouais bon à l'extérieur c'est encore plus compliqué, le bilan est négatif et tout, et il a dit, en fait je vais vous dire la vérité, ces derniers temps j'ai pris du recul, je regarde ce qui se passe et c'est pas juste nos joueurs que j'observe mais aussi notre comment dire, alors c'est le travel crew, genre les gens qui nous accompagnent, qui conduisent. Genre là, il est en train de jeter le chauffeur du bus ou le pilote de l'avion sous les roues du bus ou de l'avion. Tu vois, c'est-à-dire, et on va dire qu'on s'acharne sur Doc Rivers, mais là, c'était très bien parce qu'il n'était pas trop dans la culture de l'excuse à laquelle il nous avait habitués. Et là, je regarde tout à l'heure, je vois le match et tout, je me dis, bon, ils abusent, ils déconnent et c'est la faute des joueurs, c'est pas que Doc Rivers. Hein. Les joueurs, ils ont le droit de ne pas perdre contre les Mystics, contre les Wizards et les.
Les Mystics.
Ouais, les Mystics. Mais... contre les Wizards ou les Grizzlies. Et là, il nous sort. Le problème, c'est que. Et oui, j'ai pas fini la citation, c'est qu'il dit. Donc, en incluant le travel crew et tout le monde et tout le staff, et comme ce qu'avait fait Yanis avec le concierge et tout, tu sais, oui, c'était déjà fait un peu. Et il dit, il n'y a pas le professionnalisme nécessaire quand on est à l'extérieur. Et ça veut dire quoi, en fait ? C'est-à-dire quoi, genre le chauffeur du bus, il arrive tout le temps à la bourre ou il conduit bourré ou genre, enfin, je sais pas ce que ça veut dire, j'arrive pas. Et c'est comme quand Yanis disait du concierge jusqu'au truc,
on doit être professionnel. Il se passe vraiment quelque chose. Hein,
dans ce cas, il a peut-être raison et je sais pas, il y a un manque de professionnalisme dans le staff des mecs. C'est possible ça, pour le coup. Mais je sais pas, enfin, ça ressemble encore à une excuse alors que c'est les joueurs et lui qui arrivent pas à gagner des matchs qu'ils doivent gagner. Quoi. Enfin,
le bilan de Rivers, c'est 14-15. Il a un bilan négatif à la tête des.
Ah oui, bon, bah voilà.
On avait dit l'autre fois.
Oui, Damien Lillard, c'est très bien d'avoir Damien Lillard pour gagner des matchs, on est d'accord. Mais même quand il n'est pas là, il te reste Giannis Antetokounmpo, qui d'ailleurs commence à tirer la langue un peu. Là, il a l'air un peu fatigué, je trouve. Il y a Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Brook Lopez. Tu dois battre Memphis. J'adore les Grizzlies, hein, mais il en reste deux joueurs là. Ah bon, c'est Milwaukee, j'arrive pas.
Brandon Clark a rejoué au passé.
Ouais, ça c'est très bien parce qu'il faisait quand même partie du projet de base. Il a été beaucoup blessé, le pauvre. Donc oui, non mais c'est bien. Il y a des bons joueurs, des types intéressants aux Grizzlies. Mais non, tu peux pas. L'enchaînement Washington, Memphis et 4 défaites en 5 matchs, non. Pas d'accord.
Je regarde quel est leur prochain match. Ils vont jouer Toronto.
Ah alors là, non mais là s'ils gagnent pas, bref.
C'est non mais c'est vrai hein. Juste avant les playoffs quand même comme ça c'est
il y a, mais à côté
un,
de ça
il y a un truc qui va pas bien, il y avait pas Middleton aussi au passage hein.
Oui mais, ouais dans l'absolu
mais tu dois pas perdre Memphis Washington tu dois pas perdre pas à ce stade de la saison. Ou alors, ils ont besoin de créer des habitudes, les Bucks. Ils n'ont pas de bonnes habitudes, ils ont besoin de créer des bonnes habitudes. C'est la clé des équipes de champions, c'est créer des bonnes habitudes et de pouvoir te reposer sur des bases. Ils n'ont pas ces bases-là. Il y a du talent, il y a un potentiel. Hein. C'est une équipe qui peut hausser son niveau de jeu justement parce qu'elle a des bons joueurs et qu'elle a une expérience. Il y a des grands joueurs aussi. Mmh. Donc, c'est peut-être même pour ça que ça joue bien contre les bonnes équipes, tu vois, ou que ça réussit bien contre les bonnes équipes. Donc, en play-off, sur des séries, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que les Bucks perdent contre les Grizzlies ou les Wizards qu'ils vont se faire forcément upset. Mmh. Mais pour aller loin sur la durée, il te faut des bonnes habitudes et il y a pas ou peu de bonnes habitudes du côté des Bucks.
Moi, c'est ça. Moi, c'est pour le long run. C'est-à-dire que oui, au premier tour, je ne pense pas qu'ils vont perdre, quel que soit l'adversaire. A priori, ça devrait, avec tout le talent qu'il y a, Lillard en plus, ouais. Mais c'est une équipe qui a été construite pour gagner. Enfin, ou en tout cas pour être au moins en finale déjà de conférence et peut-être en finale NBA à court terme. Parce que Lillard n'a pas 25 ans, que Giannis est impatient, que... Enfin, voilà, c'est en ça que je dis pas qu'il aille avec ce que je vois, ils vont se faire upset au premier tour, je dis pas ça. Hein. Mais par contre, pour aller en finale de conf ou gagner, je suis très très pessimiste. Hein.
Allez, dernier match de la soirée, c'était la victoire de Portland contre Charlotte. Portland qui met fin à 10 défaites de suite. C'était un duel entre le deuxième et le troisième choix de la draft.
Scoot contre Brandon Miller.
Alors, 21 points de Brandon Miller et 22 points 10 passes de Scoot Anderson qui finit bien la saison. Sur les 10 derniers matchs, il est à 17 points 6 passes de moyenne. Presque 7 passes même.
Ouais, il y a juste un match, où il a eu le pire plus-minus de l'histoire de la NBA, je crois.
Oui, ouais, parce que c'est ça. Moins 58,
c'est pas que lui. Voilà, bon, c'est pas que lui. C'est pas pour dire... Mais sinon, oui, il commence à montrer un peu plus de constance... Après, là, je veux dire, quand tu vois les joueurs qui font jouer, c'est très jeune. Et là, c'est comme il est reparti avec G League Ignite. Là, c'est la star d'un groupe très, très jeune.
Donc, 24 points, 16 rebonds quand même de Dominaton.
Ah, Dominaton. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un point Dominaton. Tu fais bien.
Point Dominaton.
Et titularisation de Ryan Rupert à nouveau. 35 minutes, 4 points, 5 rebonds, une interception, une passe.
Dominaton, là, franchement, sur la plupart des matchs, Il est, Et sur au niveau stats, il est là, quoi.
Ouais.
Après,
on l'appelle
il
même
fait son,
plus.
Son 20-10.
On l'appelle
Ah,
plus du
ça
tout.
va
On l'appelle
rentrer.
plus du tout Diandre, quoi. C'est terrible.
Non, non, c'est Dominating.
Mais quelqu'un qui ne le connaît pas pourra croire qu'il s'appelle Dominique et qu'on raccourcit, ou je sais pas, tu vois, mais. Bref.
Ouais, bon, allez, on a fait le tour des matchs. On peut peut-être parler, une fois n'est pas coutume, de basket
Absolument.
européen parce que ça concerne le basket français, Shai. On
Ouais.
a deux équipes françaises en finale de l'Eurocup. Bourg jouera Paris pour un titre, pour une place en Euroleague aussi.
Ben ouais, parce que du coup, le vainqueur de l'opposition, en tout cas, aura le droit de prétendre à la qualification en Euroleague, parce qu'il y a toujours des clubs qui y renoncent pour diverses raisons financières et tout. Mais Paris avait battu Londres en deux matchs secs. Énorme série de Paris. Ils sont sur 16 matchs de 16 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Donc là, le projet prend vraiment une ampleur intéressante. Plus voilà, ils ont leur salle. C'est vraiment un club ambitieux et qui a vocation presque à jouer l'Euroleague à un moment. C'est Paris,
Ouais,
le
qui va y
rayonnement de
aller,
Paris,
ouais.
tout ça. Donc faut déjà battre Bourg, mais effectivement, la licence, ils l'auront à un moment ou un autre, je pense. Et Bourg qui bat Beşiktaş en trois manches hier, qui a gagné le Game 3, avec Zachary Risacher qui a joué. Forcément, les scouts NBA étaient là aussi. Il met 8 points. Je crois, 8 points, voilà, performance intéressante, il est bien dedans. Et c'est la première fois qu'à ce niveau de compète en Europe, il y a deux clubs français qui s'affrontent en finale, chez les gars en tout cas. Et puis ouais, ça va être sympa, ça va être un rendez-vous cool. La finale, c'est à partir du 9 avril, et après tous les 3 jours, si ça va jusqu'à 3 matchs. Et l'enjeu est très très important quand même.
Et puis c'est un beau sacre européen pour le basket français, quoi qu'il
Ouais.
arrive, du coup, quel que soit le vainqueur. Pour Risacher, c'est évidemment bien pour sa cote de jouer des matchs de ce niveau-là, de se montrer, de continuer à se montrer au moment où la March Madness va se terminer. J'ai vu notamment, alors ce n'est pas une mock draft, mais j'ai vu que dans son big board, Kevin O'Connor, qui n'est pas une science exacte, hein, il a mis Killian Hayes en 1, par exemple, pour vous donner une idée, il a été drafté en 7, c'était juste son big board. Risacher, il l'a mis 10, il l'a vachement descendu.
Ah
Il a
ouais.
vachement descendu, ouais. Il a mis Risacher 10e de son big board. Il a Alexandre Sarr en premier, mais sur le big board, Risacher, il l'a en 10, tu vois. Je ne pense pas que Risacher sera pris 10, mais je ne suis pas convaincu que Risacher sera pris 1, en fait. Juste en termes de profil de joueur. Je ne suis pas spécialiste de la draft, hein, je ne m'invente pas un titre, mais de ce que je suis de la NBA depuis un moment, et du coup, j'en ai connu quelques drafts. Généralement, les franchises ont du mal à prendre un mec qui a ce profil, tu vois, ou qui a un profil qui peut être en tout cas de role player au début de sa carrière, même si c'est un role player de luxe, même si c'est un super complément. C'est des mecs qui font peut-être plus gagner leurs équipes que d'autres gars, tu vois. Aujourd'hui, est-ce que, enfin, tu vois, entre un role player de luxe et une star qui stade dans le vide, c'est mieux d'avoir un role player de luxe. Mais pour être, vu qu'il y a le statut de premier choix et que tu es toujours jugé sur qui tu as pris en premier, je sais pas si, je sais pas, même Sarr, même Alexandre Sarr, je suis pas convaincu qu'il soit pris en premier, sauf qui peuvent vendre ça en mode, bah regardez, il est grand, il est français, il défend le cercle, tu vois. J'ai l'impression que c'est une draft sans vrai numéro 1.
C'est un
Ça va être.
mystère.
Ouais,
Ça fait
c'est.
longtemps qu'il n'y a pas eu un first pick qui a été drafté là. Peut-être ça va être cette année. Drafté, tradé, pardon. Bah, c'est pas impossible ça.
Ça dépend qui récupère le first
Ouais.
pick. Donc il y a déjà des GM qui définissent ces drafts comme la plus faible qu'ils ont jamais vue. Alors, faut se méfier de ces trucs-là.
Ouais, quand même.
Faut vachement se méfier. Déjà, un, parce que la draft avant que les mecs, avant plusieurs années, déjà, on ne peut pas juger une classe de draft en fait avant plusieurs années. Déjà, de une, bien sûr qu'on s'amuse à le faire parce que c'est le but du jeu. Faut anticiper, ça fait partie du truc et c'est leur métier, hein, les scouts, les analystes, les franchises, les GM. Mais donc, déjà avant plusieurs années, mais alors encore moins avant que les mecs aient joué en NBA, tu
Ah
peux
oui.
pas savoir. Et en fait, souvent, par exemple, moi, je me souviens la dernière fois qu'on a entendu ce truc de draft terrible, c'était la draft de 2013. Je me souviens même plus qui est le premier choix, c'est Anthony Bennett, c'est la draft d'Anthony. Non, ouais, si, c'est la draft
Si,
d'Anthony
c'est ça.
Bennett. Donc 2013, la draft où justement, bah pareil, il y a pas de vrai numéro 1, c'est la draft avec. Alors, certes, c'est une draft où il y a eu beaucoup de busts ou de mecs qui ont pas marché,
Ouais.
mais c'est aussi une draft où au final tu as un Giannis, donc tu as un mec all-time dans cette draft, tu vois. Et c'est ce truc que personne n'avait fait venir, tu as
Et Rudy
Gobert
aussi, ouais.
qui va peut-être finir avec le plus grand nombre de DPOY ou qui sera pas loin, tu vois, à l'issue de sa carrière. Il y a des gars comme ça, il y a quand même eu du All-Star avec Oladipo, il y a eu quelques bons, il y a plusieurs bons joueurs NBA,
Ah, mais
les
ça veut rien
Kentavious,
dire.
Caldwell Pope. Donc tout ça pour dire, ouais, le côté draft la plus faible, ça ne veut pas dire grand-chose.
Le seul truc que tu peux dire, en fait, quand tu. Alors, et encore, faut avoir bien suivi et tout. C'est tu peux dire, bon, là, dans celle-là, il n'y a pas de joueur générationnel
Ouais, il n'y a pas de joueur
de type
générationnel.
Wembanyama. Voilà. Ça, a priori, on a à peu près unanime dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un mec qui va se révéler incroyable dans le lot et qu'on n'avait pas vu aussi fort. C'est juste le seul truc qu'on peut dire, mais tu as raison. Tu as des drafts qui deviennent hyper profondes après quelques années. Tu te dis, tiens, il y a le nombre de joueurs qui sont du premier tour, qui sont des joueurs vraiment titulaires ou dans la rotation d'une équipe. C'est pas si évident. Donc là, moi, je m'engagerai pas à dire que c'est la plus faible. Il y en a quand même des corsets dans l'histoire des classes de draft qui peuvent prétendre au statut de plus faible. Celle-là, on va espérer que non. En plus, il y a des Français qui sont pris très haut. J'espère que ce ne sera pas la plus faible, du coup.
Yes, yes, tout à fait. Bon, on va se laisser là-dessus. Cet après-midi, vous, sur la chaîne, vous pouvez retrouver le replay d'une late session légendaire avec un raid de pongiste, une attaque de pongiste sur la late session. On a répondu de manière appropriée. De quoi
Je dis money time exceptionnel, ouais, l'invasion des pongistes dans les dernières
années. On ne s'est pas laissé faire par les pongistes, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous voulez des duels entre sports, retrouvez-nous tous les mardis à 23h sur Twitch.
Si vous voulez entendre Antoine clasher toutes les villes de France et de Navarre, voilà. Ne prenez pas ça personnellement.
Ça, j'ose pas le dire trop fort parce que c'est peut-être des villes dans lesquelles je suis susceptible de mettre les pieds un jour, tu vois.
D'habiter même.
Ah, que je fasse trop le malin quand même.
Ils vont t'attendre maintenant. T'es connu maintenant. Ils vont t'attendre.
Ouais, après, j'ai clashé Périgueux. Ça va, tu
vois. Méfie-toi, tu sais pas. Si t'es muté à Périgueux un jour ou ta femme est mutée, tu sais, tu peux pas savoir. Les mecs vont t'attendre.
Il faudrait qu'il y ait des entreprises d'abord.
Et là, ils continuent. Non, mais.
Non, pardon, c'est une blague hein, pour tous les habitants de Périgueux, je vous rassure. C'est pour
moi. Périgourdin.
Ouais, c'est marrant, je savais pas comment on disait. Mais là, on n'a pas le temps, mais je pourrais disséquer sur du coup les Périgourdins et leur nom de ville.
Belle ville de rugby, hein. Tu devrais te mettre au rugby si tu pars là-bas. Mais...
T'as vu mon physique, il faudrait 3 mètres comme moi pour que je me mette au rugby. Sur ces belles paroles, passez tous une bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Ciao, yes. Ciao.
Ciao.